Gérard Noiriel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreux pour écouter Gérard Noiriel parler de son dernier livre qui s'intitule « Le peuple français, histoire et polémique » paru chez Talendier, maison d'édition indépendante, donc il faut le souligner, et qui a accueilli donc ce dernier ouvrage de Gérard Noiriel, qui reprend en partie certaines chroniques que vous avez pu entendre de Gérard Noiriel sur France Culture, mais qui se sert en fait d'une partie de ces chroniques simplement comme support pour ensuite développer tout un tas de thèmes. Alors Gérard Noiriel, selon la formule consacrée, on ne vous présente plus, mais je vais quand même vous présenter. Gérard Noiriel, vous êtes socio-historien, vous avez enseigné à l'ENS Ulm de 1986 à 1994, vous avez ensuite été directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et vous êtes un des cofondateurs du musée de l'histoire de l'immigration, qui a ouvert à la fin des années 2000. Vous avez également publié, parmi vos publications les plus récentes, une histoire populaire de la France, pour lequel d'ailleurs la librairie Mola vous avez déjà accueilli en 2018. Et d'une certaine manière, en partie, ce livre, finalement, en tout cas c'est l'effet que ça m'a fait, et peut-être que vous y reviendrez, finalement ce livre est aussi une sorte de prolongement de cette réflexion amorcée dans l'histoire populaire de la France. Alors c'est un livre qui est très original par rapport à la production historique à laquelle on est habitué, puisque souvent en histoire, on a soit des livres qui sont des livres académiques très pointus sur une recherche qui vient d'être menée, sur une thèse, une habilitation à diriger des recherches, etc. Ou alors on a aussi des livres qui sont davantage des sortes de synthèses bibliographiques, souvent de chercheurs ou de chercheuses qui sont en milieu ou fin de carrière et qui regardent avec un peu de recul toute la production scientifique qui est à disposition. Ou alors on a aussi parfois des historiennes et des historiens qui interviennent dans le débat public, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, mais peu importe. Et puis finalement, dans ce livre-là, Gérard Noiriel, vous nous proposez un livre qui articule tous ces niveaux de discours, tous ces niveaux d'analyse, et ce qui en fait toute l'originalité. Et vous ne rechignez pas devant l'intervention dans le débat public, à partir d'un positionnement scientifique qui est le vôtre, dont vous allez très probablement, au cours de l'entretien, développer les bases scientifiques. Et vous expliquez, dès l'introduction, que finalement, ce qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est la prolifération dans l'espace public, dans les discours politiques, dans les discours médiatiques, de certains discours que l'on peut qualifier, avec des guillemets, de populistes, hein, puisque ce sont des discours qui prétendent parler au nom du peuple, au nom de l'intérêt du peuple, mais vous dites pour mieux faire passer en réalité des idées conservatrices, voire réactionnaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre livre n'est pas non plus simplement un livre de dénonciation. Il s'agit, au fond, pour vous, de reprendre un par un certain nombre d'idées reçues ou de clichés qui circulent beaucoup dans l'espace public et qui sont de plus en plus répandus autour du, là aussi avec des guillemets, du peuple français. Et vous les mettez un par un, hein, dans ces 10 chapitres qui composent le livre, vous les mettez en perspective historique, en vous appuyant sur l'état des connaissances et les avancées les plus récentes de la recherche. Alors, dès le début du livre, on est informé de ce positionnement en particulier-là. On sait qu'il va y avoir dans la lecture tous ces éléments-là, des éléments scientifiques, des éléments très érudits, des éléments qui nous ramènent parfois à la Grèce antique, qui peuvent nous ramener à Spartacus, jusqu'à l'époque la plus récente. Et dès le premier chapitre, on est plongé dans cette réflexion qui vous emmène d'ailleurs à faire des allers-retours assez fréquents entre le passé et le présent. Et vous commencez le livre sur la question de des résistances populaires, hein, puisque le peuple, au fond, le peuple français, c'est, vous dites, vous commencez par ça dans le livre, c'est peut-être avant tout une histoire de mobilisation populaire, de lutte populaire, de remise en cause, de rapport de domination, hein, puisque vous dites que le peuple, au fond, c'est un ensemble de personnes qui sont soumis à une même autorité étatique, mais à l'intérieur de ce peuple, il y a des dominations, il y a des tensions, il y a des conflits. Et vous dites qu'il y a, dans ce que l'on peut entendre aujourd'hui sur, par exemple, les mouvements de grève ou les mobilisations sociales, c'est très d'actualité, il y a une petite musique qui revient à chaque fois, qui consiste non seulement à dénigrer certaines formes de mobilisation populaire, mais surtout à distinguer ce qui pourrait être un bon peuple, mais aussi un mauvais peuple, le bon peuple étant évidemment celui qui ne se révolte pas. Et ma première question, justement, c'est, ça porte sur ça, hein, c'est est-ce que vous pouvez revenir un petit peu, étant donné en plus l'actualité de la question aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir sur ces mécanismes, hein, par lesquels cette stigmatisation opère, cette distinction entre ce qui serait un bon peuple français et puis un mauvais peuple, et nous expliquer aussi comment tout ce discours-là a évolué jusqu'à aujourd'hui.
Oui, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette présentation de ce travail. Alors, effectivement, donc, j'ai eu envie, disons, d'intervenir sur ces questions donc d'histoire sociale, d'histoire populaire, à partir d'une partie des chroniques donc, que j'ai faites pour France Culture, qui avait comme point commun de faire le lien entre le passé et le présent, avec cette idée que, eh bien, l'histoire, c'est une discipline scientifique, mais c'est aussi un enjeu. C'est les rapports entre histoire et mémoire. Et je suis frappé, je crois comme beaucoup de gens, par la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On observe avec inquiétude, je dirais, les attaques contre les principes de base de notre démocratie. Et donc, pour moi, un des principes élémentaires de la démocratie, c'est la défense de l'autonomie des différentes sphères d'action, si vous voulez. De même qu'on parle de l'autonomie, des enjeux de l'autonomie de la justice aujourd'hui, c'est d'actualité. Moi, je milite aussi pour qu'on défende l'autonomie de la recherche. Donc, c'est une chose qui est parfois difficile à expliquer ou à comprendre, parce qu'évidemment, l'autonomie, ça ne veut pas dire d'être béni oui ou dire tout le monde d'être consensuel, etc. C'est mobiliser les outils qui viennent de nos disciplines, qui sont des outils critiques, mais de critiques scientifiques, et à ne pas confondre avec les critiques politiques. Mais évidemment, quand vous avez affaire à des gens qui utilisent l'histoire à des fins politiques, notre rôle, ce que Marc Bloch appelait après la fonction civique de l'histoire, la fonction sociale de l'histoire, c'est justement de confronter ces manipulations de l'histoire avec ce que la recherche a produit comme connaissance. Donc c'est un petit peu la philosophie, j'allais dire, qui sous-tend ce livre et que je décline au cours des, comme vous l'avez dit, au cours des différents chapitres. Et le premier chapitre, c'est effectivement par rapport au discours méprisant sur les classes populaires. Je ne confonds pas classe populaire et peuple. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les enjeux de définition, mais évidemment, les classes populaires sont une dimension essentielle du peuple. Et donc, vous avez, je prends des exemples récents, notamment d'un philosophe médiatique qui s'appelle Luc Ferry, qui, dans une émission de une chaîne d'info en continu, disait que un grand patron était plus utile à la société qu'un militant de la CGT. Je veux dire, pour moi, c'est quand même extraordinairement choquant et complètement faux historiquement. Hein. Si nous avons la sécurité sociale aujourd'hui en France, c'est pas de la grâce des patrons. Moi, j'ai montré dans mes travaux antérieurs justement combien le patronat avait freiné des cas de fer en France pour empêcher un système de sécurité sociale, l'excès issu des luttes, la Seconde Guerre mondiale, de la résistance, enfin tous ces phénomènes-là qui ont permis d'aboutir à ces formes de droit social. Et que même la notion de l'utilité, comment la présenter comme ça, vous voyez, de manière simpliste. Donc, c'est des formes aujourd'hui peut-être euphémisées, mais qui illustre une tendance de très longue durée visant à disqualifier les luttes populaires et ceux donc qui les animent, les dirigent, etc. Et on est là, oui, dans une tendance, je crois, forte. Alors, je reprends les propos qu'avait utilisé Emmanuel Macron, hein, sur les premiers de cordée, etc., etc. Et je l'ai réinscrit dans une histoire. Et c'est un fil conducteur, effectivement, qui permet de dresser un portrait en négatif, presque, du peuple à partir des discours qu'ont tenus les dominants, en distinguant deux grandes époques. La première époque qui va, je dirais, jusqu'à la Révolution française, eh bien là, les élites aristocratiques, etc., pour eux, le peuple, les classes populaires, ne font pas partie de la nation. Hein. C'est que l'aristocratie se définit comme d'essence supérieure, on disait même le mot « race » a été utilisé, de race supérieure, et que c'est à ce titre qu'elle représente la nation. C'est ça qui a été cassé par la Révolution française, et à partir de la Révolution, on a le principe de souveraineté du peuple. Désormais, le peuple est sacré. Donc on a une évolution qui se fait, le peuple est sacré, mais il y a le bon peuple et le mauvais peuple. Et on peut retracer à différentes époques, depuis le 19e siècle, les discours dévalorisants sur le peuple, sur les racailles, sur les barbares, sur les sauvages, etc. Et c'est quand même assez incroyable. Je crois que c'est Bruno Retailleau qui a ressurgi, qui a réactivé ce terme de barbare, qui était justement un terme qui était employé au 19e siècle, sous la monarchie de Juillet, je donne la citation, hein, pour dénoncer les prolétaires qui vivaient dans les faubourgs, dans les banlieues des grandes villes, notamment de Paris, etc. Donc il y a une sorte, vous voyez, parfois inconsciemment, hein, dans les élites, dans les classes populaires, des manières de discréditer des comportements dans les classes populaires qui sont attribués à une forme d'incivilité ou de violence, barbarie, etc., etc. Donc voilà, notre travail, oui, c'est d'analyser cette généalogie parce qu'elle a des effets, effectivement, encore aujourd'hui. Elle peut avoir des effets aussi contre-productifs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des formes de réhabilitation du peuple, du coup, qu'on appelle le populisme, on pourrait revenir sur la définition aussi de ce mot-là, mais qui vont, voilà, vanter ou réhabiliter le peuple d'une manière, voyez, qui va être après plutôt négative par rapport aux intérêts des classes populaires. Bon, l'exemple type, c'est peut-être celui de Trump aux États-Unis, mais on a cette tendance aujourd'hui aussi en France. Donc il y a une réflexion à avoir, parce que je pense qu'on est aussi dans une époque nouvelle. Il y a à la fois des tendances de longue durée, mais ce qui se transforme, c'est les modes aussi de communication. Aujourd'hui, on est dans un monde où, on sait, les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, la place énorme accordée aux faits divers, aux crimes, etc., contribuent à alimenter aussi ce type de discours. Donc c'est à nous d'en faire une analyse critique.
Vous avez parlé du retour finalement de la figure du barbare, barbare qui était, alors si mes souvenirs sont bons, c'était notamment au moment de la révolte des Canuts à Lyon en 1831 et en 1834, je ne sais plus de quand date exactement la situation, si 31. C'est 31, où déjà les ouvriers de la soie à Lyon sont décrits comme des barbares, comme des formes de sauvages, bon, voilà, qui menacent qui menace finalement l'intégrité du peuple français et puis la stabilité de la nation, etc. Et en même temps, vous insistez dans plusieurs chapitres du livre sur l'idée d'une pacification de la société française. Oui. C'est-à-dire que vous mettez en rapport, en fait, quelque chose qu'on met rarement en rapport, c'est-à-dire ce discours omniprésent sur l'ensauvagement, la montée de l'insécurité, tous les risques qui pèseraient, y compris les risques existentiels qui pèseraient sur le peuple français lui-même, sur l'imminence, si on va un peu plus vers l'extrême droite, d'une guerre des civilisations, d'une guerre civile, etc., etc. Et au fond, vous dites à chaque fois... il ne faut pas oublier, en fait, que sur le long terme, en réalité, on vit dans une société beaucoup plus pacifiée que ce qu'elle était, même il y a encore quelques décennies à peine. Alors ma question est la suivante, c'est qu'est-ce qui, finalement, permet à l'historien, quelles sont les données qui permettent à l'historien d'affirmer que bon, par rapport à ce que l'on peut entendre sur tous ces discours-là, que non, la tendance sur le long terme n'est pas un retour de la barbarie, sous toutes ses formes, hein, intérieures ou extérieures, qui menacerait le peuple français.
Alors oui, ça c'est un thème que, quand je l'aborde dans les débats collectifs, qui suscite souvent les interrogations, voire les critiques, le fait de dire que nous vivons en France dans une société qui n'a jamais été aussi pacifique, surprend beaucoup de monde. Mais je rappelle quand même que aujourd'hui, si on prend comme limite la fin de la guerre d'Algérie 1962, pour les gens qui sont donc issus de l'immigration postcoloniale, ou alors 1945 pour les autres, eh bien, depuis ces périodes-là, nous n'avons jamais, en tant qu'en France, hein, j'entends, vécu la guerre. Or, la guerre a été l'expérience que toutes les générations précédentes avaient connue. On peut pas, qu'on remonte dans le temps, même jusqu'au Moyen-Âge, etc. Les familles avaient été profondément marquées par les guerres. Et donc, la forme extrême de violence, c'est la guerre. Donc, nous vivons, nous, dans un monde où la guerre, le spectre de la guerre s'est éloigné. Ce que je dis, c'est que justement, et là c'est un peu autocritique si vous voulez aussi, parce qu'il faut toujours se mettre en jeu quand on fait une étude critique, c'est qu'on a vécu les gens qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale ont vécu dans une perspective, un optimisme, je dirais, de dire oui, nous sommes dans une société où la guerre a disparu, la construction de l'Europe, il y a l'ONU, etc., etc. Et depuis quelques années, nous voyons que cet optimisme est remis en question, notamment parce que Poutine, etc., les conflits qui existent au niveau mondial, et que peut-être on n'est plus tellement préparé à réfléchir à ce que ça veut dire une société en guerre. Et j'ai analysé justement dans le vocabulaire, dans un des chapitres, je prends une citation de François Hollande quand il était président de la République, quand il dit, au moment où il y a eu les actes terroristes de 2015, je crois, nous sommes en guerre. Eh bien non, le terrorisme et la guerre, c'est pas la même chose. Ce sont des formes de violence, évidemment, qu'il faut condamner. Mon but n'est pas de relativiser les choses, mais de distinguer. Hein, de distinguer parce que les effets ne sont pas les mêmes, les formes ne sont pas les mêmes, etc., etc. Et donc, on a un glissement comme ça avec un usage du mot guerre. De même, Macron avait parlé de guerre quand il y a eu le Covid, etc. Vous voyez. Et donc ça, je trouve que ça a tendance à affaiblir notre lucidité sur les nouveautés du monde dans lequel nous sommes en train d'entrer. Et mon but en tant qu'historien, c'est d'essayer de comprendre le passé pour éclairer le présent et donc donner des outils aussi pour comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que je crois, mais c'est une hypothèse, ça je ne l'ai pas démontré, mais que nous vivons aujourd'hui, notamment en raison de la révolution des communications, ce que j'appelle l'espace public numérique qui s'est imposé, les chaînes d'info en continu, les réseaux sociaux, etc., une société qui prend des formes très différentes de celles qu'on a connues. Alors, en dehors de la guerre, maintenant, on peut prendre la délinquance. Effectivement, vous avez des statistiques, c'est pas moi qui les ai faites, des statistiques officielles, qui montrent que le taux de criminalité, si vous le comparez avec celui d'il y a 30 ans, a diminué de moitié. Alors, c'est ce que je vous dis là est contesté par des gens qui vont, évidemment, utiliser des statistiques beaucoup plus larges. C'est-à-dire que ce qui a changé, c'est que, justement, l'idéologie sécuritaire ou la politique sécuritaire fait qu'on comptabilise maintenant, qu'on enregistre des éléments qui, auparavant, n'étaient pas considérés ou enregistrés comme de la violence, qui existaient déjà dans la vie privée, dans les relations entre les personnes, et qui sont aujourd'hui catégorisés, qui sont pris en compte dans les statistiques. Donc, c'est ce qui peut alimenter ce discours d'un développement incessant de la violence. Mais si on prend les homicides, qui est quand même le chiffre majeur, eh bien, on voit qu'il y a un recul. Alors, il y a effectivement des formes nouvelles qui sont liées peut-être à la drogue, aux formes de délinquance dans les banlieues, etc., qui sont réelles. Je ne veux pas dire qu'on vit dans une société parfaite, complètement pacifiée. Mais globalement, voilà, il y a un recul de la violence physique au cours du temps. Et c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit, y compris évidemment pour contrer les discours sécuritaires qui sont quand même, je dirais, l'ingrédient de base de l'extrême droite aujourd'hui, à tel point que pour certains, toute leur politique est centrée sur cette notion de sécurité, parce que, et ça c'est pas nouveau, hein, depuis toujours, les conservateurs exploitent une dimension émotionnelle, qui est la crainte, qui est la peur, qui est la crainte pour l'avenir aussi. Donc dans des contextes de crise sociale, de transformation de la société à différents niveaux, eh bien le discours sécuritaire a un impact de plus en plus grand chez les personnes et peuvent après orienter leur choix politique, parfois au détriment de leurs véritables intérêts.
Alors votre travail prouve à nouveau, s'il en était besoin, que l'historien... Finalement, est souvent dans la posture de celui ou celle qui dit « Ah oui, mais ça ne date pas d'hier. Ah oui, mais c'est arrivé avant. Ah oui, mais calmez-vous avec cette polémique-là ou ce débat-là, parce qu'en fait, si on remonte dans le passé, on se rend compte que... » Et alors, vous faites ça pour l'insécurité, voilà. Vous le faites aussi pour l'immigration, et vous rappelez des données qui sont pourtant... facile à trouver en fait, hein, quand on voit, vous n'utilisez pas des chiffres qui proviennent d'une thèse qui vient d'être soutenue, sont des chiffres qu'on trouve assez facilement et qui pourtant sont à peu près absents du débat public. Vous dites par exemple que si on compare la proportion d'étrangers en France aujourd'hui et celle de 1930, c'est à peu près la même, hein, à peu près 8%. Bon, alors vous dites, c'est pas les. On comptait pas de la même manière, il y a les mêmes problèmes finalement que pour la question de l'insécurité, c'est pas les mêmes aussi catégories d'immigrés, c'est pas les mêmes provenances, etc. Mais finalement, il y a un risque que court l'historien, qui est un risque qui est difficile à éviter, c'est d'être celui qui dit finalement rien de nouveau sous le soleil. Et finalement, avec l'idée que l'histoire, a plutôt tendance à se répéter, etc. Alors, comment faites-vous sur les questions de l'insécurité, sur les questions de l'immigration, pour justement rappeler ces faits qui ne sont pas des opinions, et là, on est dans le rappel des faits, dans la critique historique du débat public, sans pour autant tomber soit dans la relativisation que vous avez évoquée pour l'insécurité, soit dans la banalisation de phénomènes sous prétexte qu'ils reviendraient régulièrement dans l'histoire.
Alors, moi, je ne dirais pas que rien de nouveau sous le soleil, mais je pense que l'important, c'est de saisir les véritables moments de rupture, et les ruptures fondamentales et les ruptures secondaires, disons, parce que c'est un problème que les historiens rencontrent toujours et qui créent d'ailleurs des divergences entre eux sur les moments qui sont vraiment les charnières, quand est-ce que commence vraiment le XXe siècle. Enfin bon, donc là, on a des hypothèses qui peuvent être différentes. Moi, j'accorde une grande importance aux révolutions de la communication. Hein, je le dis un peu dans le livre, si vous voulez, si vous prenez Gutenberg, hein, bon, la révolution de l'imprimerie, l'extraordinaire développement des ouvrages imprimés qui suivent, eh bien, on sait que ça a été un élément fondamental pour cet événement révolutionnaire qui a été l'émergence du protestantisme, et puis après, progressivement, jusqu'au XVIIIe siècle, ce qu'on appelait la République des Lettres, les Lumières, etc., qui prépare la Révolution française. Donc on a là une révolution dans la communication. La communication, c'est le lien entre les personnes. Donc les liens entre les personnes, vous avez deux types de liens. Vous avez des liens directs, comme nous avons ici, qui échangent de paroles, et les liens indirects, c'est-à-dire ceux qui sont médiatisés par une technologie. Et je pense qu'on peut comme ça faire l'hypothèse que les grandes ruptures sont liées à des bouleversements des systèmes de communication. Alors, le deuxième moment, à mon avis, décisif, c'est celui qui se passe pour la France à la fin du 19e siècle avec le triomphe de la presse de masse. On l'oublie, mais les débuts de la Troisième République, progrès énorme dans la démocratie, c'est aussi la liberté de la presse, les lois scolaires de Jules Ferry, ce qui font qu'en une vingtaine d'années, le nombre de lecteurs de journaux est multiplié par 10. Multiplié par 10, c'est une révolution. D'ailleurs, il y a des bouquins d'histoire qui s'appellent « La révolution du journal », parce que l'écrit, la culture écrite, elle pénètre désormais dans toutes les classes de la société. Et donc, ça accompagne aussi, c'est à ce moment-là que naissent les partis politiques. La vie politique parlementaire, les partis ont leurs journaux, etc., etc. Donc c'est une révolution dans laquelle nous sommes encore, mais à mon avis, dont nous sommes en train de sortir, parce que nous serions... C'est une hypothèse, ça, c'est une hypothèse, j'essaye de travailler là-dessus en ce moment, mais la crise des partis, l'affaiblissement de la forme classique de la vie politique est liée aussi au bouleversement des systèmes de communication qui se sont accélérés avec les chaînes d'infos en continu, avec le numérique, je dirais, les réseaux sociaux. Donc, voilà, ça, ce sont des ruptures. Et ces ruptures-là, elles engendrent toute une série d'éléments où des éléments anciens sont récupérés, réutilisés. Donc, c'est pour ça qu'il faut montrer que ce sont des éléments qui existaient déjà avant, mais qui sont réutilisés peut-être dans un nouveau contexte. Et je pense que le contexte actuel, c'est l'usage de la démocratie contre elle-même. Si vous comparez l'extrême droite d'aujourd'hui et l'extrême droite des années 30, vous voyez bien la différence. C'est là qu'on va retrouver la pacification. Dans les années 30, ce sont les ligues qui s'en foutent des élections. C'est par la violence. Vous avez ceux qui réclament le retour de la monarchie, d'un côté, l'extrême droite, et puis à l'extrême gauche, c'est la révolution. Donc il y a une attaque frontale des deux extrêmes contre la démocratie, contre la République, alors qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des partis se disent respectueux des principes de la République et du droit de vote. On est aujourd'hui peut-être à la veille d'un événement complètement inouï dans l'histoire de France où un parti d'extrême droite arrivera au pouvoir par la vertu des élections. Ce qui change quand même la donne. Il faut aussi comprendre pourquoi. Donc, si vous voulez, ce sont ces éléments-là, moi, qui m'interpellent et que j'interroge. Alors, effectivement, sur l'immigration, puisque ça a été le centre de mes recherches, ce que vous disiez, voilà, moi, j'ai commencé mes recherches dans les années 80, et en démontrant ceci, que déjà en 1930, le taux d'immigration, il était déjà à peu près le même qu'aujourd'hui, et que bien qu'on ait une sorte de consensus chez les chercheurs, historiens ou historiennes, sociologues, anthropologues, politistes, démographes, nous sommes tous d'accord. Il y a des tas de domaines dans les sciences sociales où il y a des désaccords profonds. Mais là, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment aujourd'hui toute la recherche qui est évacuée, discréditée, mise en cause. Moi-même, Zemmour m'a traité d'immigrationniste. C'est l'insulte, là. Donc, si vous voulez, ça crée aussi un sentiment de révolte. Et on parle des valeurs républicaines, mais la connaissance, ça a été une valeur centrale. On parle de laïcité, on oublie que la laïcité, telle que la concevaient les fondateurs de la Troisième République, c'était aussi l'éducation par la connaissance, par le savoir, etc. Donc il y a des enjeux, vous voyez, qui sont liés aussi à la défense, qui sont politiques indirectement, par la défense de l'autonomie de la recherche, de la connaissance, de l'échange, du respect des arguments, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a des points communs, une sorte de tendance récurrente en France, la place de l'immigration, qui a toujours été, depuis la fin 19e, un enjeu majeur pour les partis de droite et d'extrême droite. Ça, c'est une constante qui est liée, évidemment, à la construction de l'État national et à une identité du « nous » français qui est fondamentale. C'est « nous » et « eux ». « Nous » français et « eux ». Eux, c'est les autres, c'est les étrangers. Et selon les époques, eh ben, l'étranger sera défini comme le juif, comme le noir, comme le musulman, etc. Ça peut varier, ça, au cours du temps. Mais le principe de base, il est structuré autour d'une identification, autour du « nous » français. C'est ça qui est fondamental. Et ça reste encore le principe de base aujourd'hui. Mais c'est articulé dans des logiques politiques qui, elles, sont en train de changer.
Alors, ces réflexions-là vous amènent forcément à faire ce que j'ai évoqué en introduction, c'est-à-dire des allers-retours entre le passé et le présent. Et finalement, vous vous permettez ce que l'on déconseille généralement aux étudiants d'histoire, hein, en leur disant « le passé, c'est le passé ». Quand on commente un document, on oublie ce qui s'est passé après. Ne faites pas de parallèles et d'anachronismes, etc., etc. Et puis vous, au contraire, vous le permettez. Alors pas, évidemment, n'importe comment, et ce ne sont pas des comparaisons à l'emporte-pièce, évidemment. Et vous avez vous isolez comme ça des moments, des événements, des crises du passé qui résonnent, disons, avec certains événements plus récents. Alors, Parmi celles qu'on peut trouver dans le livre, il y a les émeutes du 6 février 34, hein, que vous avez évoqué tout à l'heure avec les ligues des années 30, que vous mettez en parallèle avec l'envahissement du Capitole, par exemple, par les Trumpistes, sans dire encore une fois que c'est la même chose, hein, que c'est simplement la répétition de l'histoire. Vous faites également le même travail de mise en parallèle et d'interrogation au fond de la comparaison entre le sort qui a été réservé aux Kanaks et à la situation de l'apartheid en Afrique du Sud. Vous faites le même travail entre l'islamophobie actuelle et puis l'antisémitisme de l'époque de Drummond à la fin du 19e siècle, ou encore entre le climat, disons, très sécuritaire lié à l'instrumentalisation du terrorisme islamiste actuellement et ce qui pouvait se passer à la fin du 19e siècle avec une autre forme de terrorisme, hein, qui était le terrorisme anarchiste. Donc, en faisant ça, forcément, l'historien va s'attirer automatiquement des critiques de la part du monde académique ou d'autres, d'ailleurs, des journalistes. Mais est-ce que cette position que vous défendez, alors que vous avez défendu dans vos chroniques, que vous défendez à nouveau dans ce livre et puis ailleurs, est-ce que cette position ne peut pas être aussi interprétée comme une forme d'invitation aussi à l'ensemble de la communauté scientifique, universitaire, des chercheurs, des historiens, à oser finalement intervenir sur des questions de débat public, pas à titre personnel, pas à titre subjectif, mais en utilisant en fait tout ce savoir qui est accumulé et dont on a parfois l'impression qu'il reste très loin en fait du débat public et très loin des citoyennes et des citoyens.
Alors là, je dirais que il faut distinguer. Moi, j'ai toujours pensé que pour le respect des lectrices et des lecteurs, il fallait toujours qu'on distingue le type de travail qu'on fait, c'est-à-dire. Pour nous, historiens, je dirais qu'il y a deux grandes options. Il y a ce qu'on appelle les recherches de fond sur archives, etc., qui prennent voilà, des années sur un sujet très précis, où on va exploiter toutes les dimensions. Et puis, les ouvrages de synthèse. Donc, celui-là, je le range dans les ouvrages de synthèse. C'est-à-dire, je m'appuie sur un certain nombre de travaux que j'ai pu faire avant, ou de collègues, etc., pour fabriquer un récit qui pourra toucher un public qui va largement au-delà du public des spécialistes. Donc, c'est pour ça que parfois, évidemment, on va un peu vite, ou on va, voilà, ça va être un peu sommaire. C'est plus des hypothèses que des choses démontrées, il faudra aller plus loin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans ce que vous avez dit, il faudrait quand même distinguer ce qu'on appelle une comparaison. La comparaison, elle va porter sur certains points, pas sur l'ensemble du phénomène. Donc on pourrait dire, par exemple, quand je compare l'apartheid en Afrique du Sud et la Nouvelle-Calédonie, d'abord, ça ne vient pas de moi, hein, ça a été fait par d'autres, et puis c'est sur certains points qui concernent des formes de ségrégation, d'exclusion, de privation des terres, etc., etc. C'est sur ce point-là. Je ne fais pas une généralisation d'une comparaison globale entre les systèmes. Pour les autres points, c'est pareil. À chaque fois, voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut pointer, qu'on peut comparer parce qu'elles se répètent, que ce soit dans les formes de pratiques sociales, soit dans les arguments. Je le fais pareil avec Boulanger, par exemple, avec le boulangisme. Comment comment aujourd'hui, si vous voulez, dans le débat public récent, vous avez sans doute suivi que un certain nombre de personnalités politiques opposent la souveraineté du peuple et l'état de droit. Bon, ben ça, on le trouve déjà chez Boulanger. Chez Boulanger, vous savez, qui a failli abattre la République à la fin dans les années 1880, ce qu'on appelait le boulangisme, avec un fort soutien d'une partie des classes populaires, notamment des ouvriers. Il y avait cette logique-là d'opposer le peuple à l'état de droit. Donc, quand je dis qu'on retrouve ça aujourd'hui, je ne dis pas que M. Retailleau serait le nouveau Boulanger, hein, parce que les formes sont différentes. Mais l'argument lui-même, il s'inscrit dans une longue durée. Et pourquoi s'inscrit-il dans une longue durée? C'est lié à une contradiction majeure de la démocratie qui, elle, s'ancre dans une histoire beaucoup plus longue. C'est pour ça que, quand j'en parle, je reviens à l'époque des Grecs, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes. La démocratie, c'est un système politique contradictoire, parce que c'est le pouvoir du peuple, mais le peuple au sens classe populaire, c'est-à-dire au sens des plus nombreux, n'est jamais au pouvoir. Hein ? Et ça, ce système-là, on le retrouve à toutes les époques et encore aujourd'hui. Donc, ce qui permet aussi de manipuler les définitions du peuple pour les opposer à l'état de droit, en disant, attention, moi, je représente le peuple. Et la forme actuelle, qui n'est plus celle de Napoléon III avec les plébiscites, ni celle de Boulanger, c'est beaucoup les sondages. Hein ? Si vous regardez CNews, par exemple, tous les jours, vous avez un sondage qui nous dit que 80% des Français veulent qu'on expulse tous les immigrés. Hein. Et vous avez, sur tous ces domaines sécuritaires, des sondages comme ça. Alors, je ne dis pas que ces sondages sont faux, mais comment on fabrique ? La sociologie des sondages a montré comment étaient fabriqués les sondages, quelles étaient les questions qu'on posait aux gens, comment on les orientait dans les, voyez, la réception, etc., etc. Donc, on a toute une... Des tas d'outils dans les sciences sociales pour critiquer ces formes, ces usages-là de la voix du peuple. Et les mêmes qui vont nous dire, on parle au nom du peuple, regardez combien ils ont d'élus comme députés, c'est ce que je fais dans le livre, en comparant le nombre d'ouvriers au sein du Rassemblement national, au sein de la droite républicaine, etc. Il n'y en a pratiquement plus. Hein. On est aujourd'hui dans une époque où les classes populaires, ouvriers, employés, sont beaucoup plus exclus de la représentation parlementaire que c'était le cas en 36 ou en 45, par exemple. Chiffres à l'appui, c'est pas des croyances, ce sont des choses qu'on peut vérifier. Donc il y a des formes de discrimination sociale qui sont massives aujourd'hui et qui ne sont pas suffisamment, je trouve, prises en compte aujourd'hui, même pas dans le débat public. Et donc ça explique aussi le sentiment d'être exclu, le ressentiment que les gens peuvent ressentir dans notre société et le fait qu'ils n'aient pas les moyens de les exprimer, et ils pourraient les exprimer de manière démocratique si on leur en donnait les moyens. Mais quand vous n'avez pas les outils démocratiques pour vous défendre, eh bien, vous pouvez recourir à d'autres moyens. C'est ce que l'histoire montre constamment hein, depuis le Moyen-Âge.
Alors, on a beaucoup parlé forcément d'histoire, mais vous avez parlé aussi de sociologie et des outils, au fond, sociologiques qui peuvent être utilisés par l'historien. Alors, il y a un cas qui, je trouve, est tout à fait éclairant sur ce point, c'est le cas du racisme, hein, puisque vous distinguez le phénomène raciste et la banalité en fait de ce phénomène à la fin du 19e au début du 20e siècle, et là vous renvoyez aux travaux très connus sur le clown chocolat et vous rappelez des choses que l'on a tendance à oublier, hein, même en connaissant cette histoire, etc. Mais le fait que Toulouse-Lautrec, par exemple, n'hésite pas à représenter le clown chocolat avec une tête de singe, et vous distinguez ce racisme-là du racisme politisé. Hein, vous dites qu'il y a deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a ce racisme qui est là, qui est un fait social, voilà, et puis un racisme qui devient politisé, vous dites, pas avant la fin des années 1930 en France. Vous citez d'ailleurs un livre qui est absolument ahurissant pour les yeux de quelqu'un d'aujourd'hui, hein, le livre de René Gontier de 1939, qui s'appelle tout simplement « Vers un racisme français » et qui défend un racisme, je cite, « humaniste ». Qui
par rapport au racisme allemand. Hein.
Exactement. Donc une sorte de respectueux à l'égard de toutes les races, par rapport au mauvais racisme allemand, évidemment, qui serait excessif, comme tout ce qui est allemand aux yeux des Français à cette époque-là. Et j'allais dire que l'historien aurait pu s'arrêter là. Mais le socio-historien va plus loin, puisque vous dites que pour comprendre ce phénomène-là, il y a plutôt des choses qui nous empêchent de bien le comprendre. Et notamment, il y a un phénomène social, et là, vous utilisez Bourdieu sur cette question-là, puisque vous dites qu'il y a quelque chose qui nous empêche, alors je le dis nous, on va dire, classe éduquée, profession intellectuelle, etc., qui nous empêche de bien comprendre ça, c'est justement ce que Bourdieu appelait le racisme de l'intelligence, et qui consiste à n'attribuer le racisme qu'aux classes populaires. Et donc, finalement, votre réflexion se déploie sur les deux terrains, à la fois sur le terrain historique et puis sur le terrain sociologique. Mais c'est une démarche, vous en conviendrez, qui n'est pas très commune, en fait, chez les historiens. Alors, comment... est-ce que vous êtes encore à un stade où ce genre de réflexion finalement bute encore sur certaines réticences chez les historiens, par exemple, ou est-ce que finalement vous constatez que cette manière d'approcher des phénomènes complexes comme le racisme ou autre, finalement ne peut se faire qu'en allant piocher dans la sociologie ou dans d'autres d'ailleurs disciplines que l'histoire?
Oui, alors c'est vrai que sur ces questions-là qui sont au centre de mon travail hein, depuis le début, c'était quand on me demande quel cœur de mon travail, moi je dis j'ai travaillé constamment sur la question des pas des identités mais des identifications. C'est pour moi le central. C'est-à-dire parce que l'identification c'est une relation de pouvoir, c'est un processus, une relation de pouvoir où vous avez d'un côté des gens qui ont le pouvoir d'identifier les autres. Et comment fait-on quand on est identifié pour réagir? Est-ce qu'on adhère à l'identité qu'on nous a donnée? Est-ce qu'on la conteste, etc. Donc ça, c'est un outil que j'ai appliqué d'ailleurs au niveau social. Au départ, quand j'ai travaillé sur le monde ouvrier, j'ai beaucoup travaillé sur le point de départ, si vous voulez, de mes recherches. C'est que moi, j'étais professeur dans un collège en Lorraine au moment des grandes grèves de la sidérurgie, hein, 79-80. Tous mes élèves étaient des enfants de sidérurgistes. Et donc, j'étais moi-même, d'ailleurs, encore à cette époque-là, j'ai été exclu après, mais membre du Parti communiste. Et donc, j'ai participé à cette lutte et j'ai été frappé par l'écart qui s'était construit entre la dynamique du mouvement à la base et ce qu'on disait les porte-paroles autorisées, si vous voulez. Hein. Et donc, c'est ça qui m'a amené à me tourner vers Bourdieu, faire de la sociologie, entrer en lien, en contact avec lui, la réflexion sur les porte-paroles. Qui parle au nom des autres? De quel droit? Comment? Qu'est-ce que ça implique? Donc, c'est ce que Bourdieu appelle la violence symbolique, voyez? Et donc, elle touche en premier lieu, moi, ceux que j'appelle les professionnels de la parole publique, je me mets dedans, hein. Donc, c'est aussi autocritique, ce que je dis. On ne peut pas toujours dire que c'est les autres, mais tous ceux qui ont le privilège de pouvoir parler en public, de parler au nom des autres, etc. C'est ça, en fait, qui est déterminant. Et donc, évidemment, la question du racisme entre là-dedans, mais c'est pas... Je l'ai fait pour d'autres domaines, si vous voulez. C'est comment ça se passe. Et on peut analyser, vous voyez, comment, pourquoi, voilà, toute la logique qui amène à définir des individus, à les identifier à partir de leur couleur de peau, etc. Ça, c'est le fondement au départ du racisme. Quels sont les effets que ça procure? Est-ce que les gens vont s'identifier à cette image qui est donnée d'eux? Qu'est-ce qu'ils vont, comment ils vont réagir, etc. Enfin, on a toute une logique qui se développe. Je travaille en plus encore là-dessus en ce moment. J'ai pas pu aller au fond là, mais j'avais déjà écrit là-dessus auparavant, et donc m'a amené, si vous voulez, à reprendre la généalogie de ces questions-là, des concepts de race, de racisme, etc., et de distinguer effectivement ce qu'on appelle les préjugés. Parce que si vous prenez jusqu'à la fin, le mot racisme n'existe dans la langue française que depuis l'affaire Dreyfus, en gros. Hein, depuis la fin 19e, début du 20e. Pourtant, ce qu'on appelle racisme aujourd'hui, ça existait déjà avant. Hein. Donc, mais avant, par exemple, si vous lisez l'abbé Grégoire, hein, qui a joué un rôle fondamental contre l'esclavage et pour contre les discriminations à l'égard des Juifs, etc., eh bien, il parlait de préjugés de couleur. Donc, je pense, moi, mon approche, c'est de dire que le racisme, c'est la politisation des préjugés. Et qu'il y a une tendance aujourd'hui, avec les nouveaux outils d'investigation, etc., à confondre les deux. Et ce qui est dommageable, parce que les gens ont des préjugés, oui, et peut-être qu'il y en a plus dans les classes populaires que dans les classes cultivées, c'est une chose. Et d'autre part, les classes cultivées, qui ont été longtemps à l'école, etc., ils ont une capacité d'utiliser le langage qui leur permet d'éviter d'être accusés de racisme. Je donne un exemple dans le livre à partir de Bardella, justement, de comment, y compris à l'intérieur de son parti. Hein, ça m'a frappé, cette affaire-là. C'est que lui, donc, s'en prend aux doubles nationalités. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, disant que les franco-russes ne peuvent pas être ministres, hein, c'était ça. Lui, il a parlé des franco-russes, parce qu'il savait qu'en disant franco-russe, vous risquiez guère d'être condamné pour racisme. Mais dans son propre parti, un des élus qui était milieu ouvrier, hein, c'est un des rares ouvriers du Rassemblement national, lui, il a dit franco-maghrébin. Hein, et là, du coup, ses adversaires, voilà, il a été condamné par la loi pour racisme. C'est intéressant de juger, d'analyser aussi les arguments qu'il avance, lui, pour essayer de se justifier en disant qu'il s'est fait piéger, etc., etc. Et au final, ça n'a pas empêché qu'il soit élu député. Donc il y a quand même une question qu'il faut se poser là-dessus. Soit on considère, c'est ce que je dis aussi dans le livre, le peuple français aujourd'hui est devenu complètement raciste, alors il faut faire comme le disait Brecht, puisque le peuple est mauvais, changeons le peuple, hein ? Voilà. Soit on se dit peut-être que nos manières d'interpréter ou d'expliquer ou de comprendre les choses ne sont pas adaptées, ne sont pas suffisantes par rapport au monde dans lequel on vit. Mais moi, j'ai pas de solution. Mais je voudrais que ces questions-là soient posées. Or, elles ne le sont pas, y compris dans mon milieu. Quand on a abordé ces questions-là avec mon collègue Stéphane Bou, sociologue, dans le livre qui s'appelle « Race et sciences sociales », on s'est fait insulter, je peux vous dire, sur les réseaux sociaux, de tous côtés, en disant qu'on faisait le jeu des racistes, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour moi, c'est ça peut-être le plus douloureux, je dirais. C'est que la réflexion un peu distanciée par rapport au jugement de valeur, aux, ce qu'on appelle les entrepreneurs de morale, etc., aujourd'hui, sur ces questions-là, ne soit quasiment plus possible. Et je pense que ça a des effets politiques qui vont finalement dans le sens d'un encouragement de tous les discours qu'on entend aujourd'hui, pas rien qu'en France, hein, mais qui nous amènent vers des solutions, vers des programmes et un avenir extrêmement inquiétant du point de vue de social et politique.
Alors vous avez des analyses parfois très sévères sur, évidemment, les gouvernants, les élites de toutes les époques, peu importe, mais aussi sur les mouvements populaires eux-mêmes, les mobilisations du passé comme les mobilisations actuelles. Vous avez une attention particulière qui est portée à la question des contradictions de tout un tas de mouvements, qu'il s'agisse du mouvement ouvrier ou socialiste des années 30, comme des mouvements antiracistes, décoloniaux ou féministes actuels. Et c'est peut-être là qu'il y a peut-être un point qui peut vous attirer des critiques de tous les côtés, hein, puisque vous dites que vous avez été accusé d'être raciste, etc., mais vous êtes aussi accusé d'être un dangereux wokiste et d'avoir été immigrationniste, comme vous le dites, à tel point qu'on se demande, vous dites à la fin, finalement, la position de l'historien qui veut intervenir sur la base d'un savoir scientifique, c'est un peu la position du funambule, mais... Bon, funambule, il peut le faire le temps d'un numéro, mais par contre, sur toute une carrière et sur des dizaines de livres et d'articles, ça doit être quand même assez...
Je suis pas mort encore.
Voilà, mais ça doit demander beaucoup d'énergie, ça doit être parfois très désagréable, quand même, cette position-là. Mais en tout cas, cette attention apportée aux contradictions, parfois en vous lisant, en tout cas, c'est moi la réflexion que je me suis fait, c'est que, oui, forcément, toutes les mobilisations, qu'elles soient féministes, antiracistes, anticapitalistes, tout ce que l'on veut, sont forcément, à un moment ou donné, contradictoires, hein, comme tous les phénomènes sociaux humains qui existent. Mais sur la longue durée, est-ce que finalement, ces contradictions, est-ce qu'elles sont aussi problématiques que vous semblez le dire dans le livre, puisque vous dites à chaque fois... dès qu'il y a contradiction, les forces adverses, conservatrices, réactionnaires, l'extrême droite, vont s'en servir pour briser ces mobilisations ou, au contraire, aller plus loin encore dans le conservatisme ou la réaction, etc. Mais au fond, est-ce que c'est pas une sorte de fatalité hein, quand il y a des mobilisations populaires, que des contradictions émergent et qu'elles prêtent le flanc à des critiques ou des récupérations du camp adverse.
Je dis quand même aussi dans le livre que toutes les luttes populaires, disons pour prendre cet exemple-là, ont abouti à des progrès de nos sociétés. Je le dis explicitement, même pour le XVIIe siècle, où on voit que les formes d'humanisation des rapports sociaux, qui, voilà, surtout à partir du XVIIIe siècle, etc., sont aussi le produit, même si c'est jamais reconnu par les dominants, hein, mais sont le produit de ces luttes. Et donc je dis explicitement dans le livre que même quand une lutte populaire est perdante, il en reste quelque chose de positif pour l'avenir. Mais... mon rôle, c'est pas de faire l'apologie des luttes en tant que chercheur. Peut-être qu'en tant que citoyen, je distingue bien les deux. En tant que citoyen, moi, je suis engagé dans toute une série de choses. Mais en tant que chercheur, je prends du recul, même par rapport à ce que je crois en tant que militant, pour analyser les contradictions des mouvements sociaux. Parce que Je vais vous prendre justement l'exemple que je prenais tout à l'heure du Parti communiste. Quand j'étais, moi, au Parti communiste, mon premier livre, donc, c'est une analyse critique de cette lutte qui m'a valu d'être exclu du parti. Mais si les responsables de ce parti avaient tenu davantage compte de ce qu'on leur disait à l'époque, peut-être que le Parti communiste n'en serait pas là aujourd'hui. Vous avez quand même aussi des analyses qui utilisent les outils avec leurs limites, leurs contradictions. Je ne dis pas qu'on a toujours raison, mais enfin, qui s'appuient sur des données, qui s'appuient sur des concepts, etc., qui aboutissent à des résultats. Et je pense que c'est servir les luttes sociales que de montrer leurs contradictions. C'est pour ça que je prends un certain nombre d'exemples, et donc dans le mouvement ouvrier, l'histoire du mouvement ouvrier, je reprends justement dans ce que l'extrême valorisation en France du prolétariat à un moment donné, parce que c'était la fraction des classes populaires qui était la plus engagée, etc. Mais c'était un peu au détriment des autres composants des classes populaires. C'était les paysans, les petits commerçants, etc., etc. Et qu'après, donc effectivement, voilà, les forces adverses, elles sont pas stupides, hein. Elles voient quand elles vont pouvoir récupérer, comment elles vont récupérer. Donc, si on analyse les contradictions d'un mouvement, on peut donner peut-être aux forces qu'on soutient des outils pour que la lutte soit plus efficace, en tout cas l'espoir qu'on peut avoir. Donc, moi, je pense que c'est pas pessimiste, c'est simplement un constat, une analyse qui vaut aussi aujourd'hui pour un certain nombre de contradictions qu'on peut voir dans le mouvement féministe. Je prends là des exemples balance ton porc, là, etc., les effets que ça peut avoir sur les gens, etc. Voilà, c'est des analyses qui sont fondées sur un certain nombre de cas, d'exemples, de témoignages aussi contradictoires qui peuvent exister, y compris sur le racisme, c'est-à-dire des formes de lutte qui visent à empêcher qu'une pièce de théâtre puisse se dérouler de repeat parce que vous avez des acteurs qui ont des masques noirs. Je veux dire, d'un point de vue de l'efficacité politique, on peut en douter, parce que évidemment, vous opposez, c'est facile après d'opposer la liberté d'expression, voilà, au racisme, etc. Donc, les woke aujourd'hui, enfin, c'est un courant quand même qui se développe, y compris dans le monde universitaire, hein, les anti-woke plutôt, oui, vont s'emparer de ces choses-là. Et ils vont généraliser. Et c'est comme islamo-gauchiste, etc. On est confronté, nous, à l'intérieur de notre milieu, à partir de choses qui existent, mais qui sont marginales par rapport aux publications, aux travaux, nos travaux, mais sont exploitées par des courants conservateurs. Et donc, à nous aussi d'être lucides et de porter la critique, d'être les premiers à faire des critiques de cela plutôt que de laisser les autres s'en emparer. Voilà ma position là-dessus.
Alors, il y a un mot que vous avez prononcé à plusieurs reprises, qui est le mot progrès, qui est un peu constamment présent dans le livre, même s'il ne l'est pas explicitement, et qui contraste, là aussi, avec le discours, d'abord que celui que vous décrivez comme un discours décliniste, et qui est une constante, au fond, du discours conservateur et réactionnaire, etc., mais qui est aussi qui contraste avec l'impression d'abattement, de pessimisme, de résignation qu'il peut y avoir aussi dans les classes populaires, y compris dans les mouvements sociaux, quels qu'ils soient. Vous montrez bien, là aussi, que, finalement, la question, ou une des questions fondamentales, que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la tension qui existe depuis, en France en tout cas, depuis la Révolution française, entre la démocratie représentative, la démocratie directe, et au fond que la démocratie avec un grand D, ça n'existe pas. Il y a toujours différentes conceptions pratiques de la démocratie qui s'affrontent. Et au fur et à mesure de ces affrontements, de ces crises, finalement, vous montrez que malgré tout, et malgré toutes ces contradictions, malgré toutes ces crises, etc., eh bien, il y arrive très souvent, quand même, comme vous l'avez dit, qu'il y a des progrès qui existent. Et au fond, cette idée de progrès qui est battue en brèche beaucoup en ce moment dans les sciences humaines et sociales en général, hein, parce qu'on dit le progrès, c'est une vieille idée, c'était le 19e siècle, le techniciste, etc., qui promettait le progrès à tout le monde, et puis on se rend compte, avec le réchauffement climatique, que ça n'était pas un progrès, etc. Est-ce que vous, finalement, avec ce livre-là, et puis vos autres écrits, est-ce que vous ne réhabilitez pas, au fond, l'idée même de progrès sur le plan politique et social, en revenant sur toutes ces crises, et en revenant de manière très honnête, c'est-à-dire en présentant aussi toutes les contradictions, toutes les limites, les reculs aussi, parfois ?
Bah, là, cette notion de progrès, c'est parce que j'ai, dans mon vocabulaire, j'oppose conservateur et progressiste. Hein, c'est beaucoup lié à cela. Et donc, on peut, oui, donner quelques critères qui vont définir le progrès dans le respect humain, la paix. Alors, c'est pas forcément sur des questions du développement industriel. Enfin, il y a le progrès économique qui peut passer par différentes formes, etc. Mais je pense effectivement que, voilà, je plaide en tout cas pour qu'on aille vers plus de progrès, que ce soit dans. Voilà. Et que nous sommes aujourd'hui. Je ne suis pas optimiste sur la situation actuelle. Je pense que l'histoire, de toute façon, c'est contradictoire. On est dans des phases. Si vous prenez l'histoire, il y a des moments de recul profond, et puis après, des phases de réhabilitation, de transformation, d'innovation, etc. Donc, je pense aujourd'hui, on est plutôt dans le creux de la vague, mais ça ne veut pas dire que on n'aura pas, vous voyez, des choses qui iront de nouveau dans le bon sens. Et c'est pour ça que je suis, vous savez, que moi, quand j'étais jeune, j'avais horreur des discours des vieux qui nous disaient, voilà, donc je veux pas avoir l'air d'être, comme on dit, un vieux con. Hein. Je suis très sensible à ce qu'apportent les nouvelles générations, des choses parfois que je comprends pas, que je suis pas capable de faire. Parce que c'est justement, chaque génération apporte son lot, et de considérer comme ça qu'il n'y aurait plus de progrès possible, ce sera un truc vraiment de discours de vieux, quoi. Non, donc il y a des formes d'innovation qui se passent par des chemins extrêmement, extrêmement divers, mais on ne peut pas prédire l'avenir, c'est sûr que... Mais ce qui est important, c'est aussi dans les périodes de crise et de recul, d'être celles et ceux qui ont la petite voix qui rappelle quand même que ça pourrait aller mieux, que ça pourrait être mieux. Parce que si on voit dans le passé, c'est souvent des gens... Prenez même à l'époque du nazisme, etc. Il y avait déjà des opposants, hein, qui risquaient même leur vie à l'époque. Et ce qu'ils ont écrit à cette époque-là, ça nous sert encore à nous aujourd'hui. Donc on est aussi dans cette logique-là de s'adresser à un futur, à des générations futures qui pourront peut-être, vous voyez, tirer profit de ce que nous aurons écrit, de ce que nous aurons cru peut-être aussi dans cette foi dans le progrès qui, sur le moment, paraîtra, comme vous disiez, ringard, dépassé, etc., mais qui, au fond, eh bien, oui, ont une valeur par rapport à l'histoire de l'humanité. Voilà, mais ça, c'est des vœux pieux, si vous voulez, je n'en sais rien. Mais je préfère être dans cette logique-là que dans une logique des pleureuses, des déclinistes, etc., qui dominent peut-être le champ actuellement. Vous voyez, c'est parce que ce sont des choses que ni les uns ni les autres ne peuvent prouver par rapport à ce que sera notre avenir.
Eh bien, merci. Gérard Doiriel, pour cette note positive qui permet de terminer avec une note d'espoir.
Merci. 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 Merci.